commencerai à 21h, ben voilà. Voilà. Bienvenue en tout cas à nos amis aragoniens qui se sont, qui sont venus en masse ce soir en nombre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la soirée qu'on vous propose en ce dimanche. Ce dimanche des rameaux. Et dans le prolongement de ce qu'on a fait cet après-midi, vous allez découvrir pourquoi, je ne vous en dis pas plus. On a eu une après-midi de comparaison et de discussion et d'échange autour d'une pièce de Valerno Varina de 1998 qui s'appelle L'Opérette Imaginaire, et avec un dialogue entre la version française et la version hongroise, avec nos amis hongroises qui étaient là. Et donc, ce que vous allez entendre est dans le prolongement de cette discussion, de cette interaction entre les langues françaises et hongroises. Et ça s'appelle évidemment une langue inconnue ce soir. C'est un duo, donc Valerno Varina pour le texte, et Mathias qui est venu et que vous avez vu, pour ceux qui étaient là hier soir, dans le vrai sang. Voilà, dans la captation filmée, bien sûr, du vrai sang. Hein. Et donc Mathias Lévy, on le voit quand même bien en vrai sang, avec différentes apparitions au cours des 2h30. Et donc Mathias Lévy, certains d'entre vous le connaissez déjà, il est de réputation internationale, vous l'avez entendu sur France Culture, il vagabonde partout et il forme un duo avec Valère depuis déjà un petit moment. Ce spectacle-là, bien entendu, c'est pas la première, ça a déjà été, interprété, mis en voix, mis en scène, quelquefois. Et voilà, et donc je vais pas en dire plus, donc une heure inconnue, c'est parti pour une heure dans l'inconnu. Voilà, place à vous, monsieur.
Ma mère, Manon Trolliet, née le 20 avril 1914 au bord du lac de Neuchâtel, nous conduisait souvent, lorsque nous étions enfants, mon frère Patrice et moi, auprès du piano de tante Mathilde, pour nous jouer sur de vieilles partitions reliées dont nous apprenions à tourner les pages, la marche turque, la polonaise héroïque, la sonate au clair de lune. Et enfin, c'est le moment que nous attendions, nous chanter en s'accompagnant au clavier cinq chansons de Théodore Botrel, La lettre du gabier, La grande câline, La pimpolaise, Le petit Grégoire, Le grand lustucru. Lorsque mon père était absent, le récital allait un peu plus loin. Il s'achevait par la chanson hongroise. Ma mère ne parlait pas cette langue, mais savait toujours cette chanson Kichdwan, un jeune étudiant qu'elle avait connu à Genève lorsqu'elle était toute jeune fille, avait composé pour elle. Il l'avait demandé en mariage. Ma mère n'avait pas 18 ans, mon grand-père avait refusé. Kichdwan était retourné en Hongrie. Et bien des années plus tard, ma mère avait appris qu'il était mort à Auschwitz. Elle chantait cette chanson poignante et hermétique, avec grande expressivité et une voix juste, mais un peu voilée. Son professeur lui avait, dit-elle, cassé les cordes vocales lors de cours trop intensifs au conservatoire de Genève. Elle avait depuis renoncé à chanter et était devenue comédienne. Je ne sais pas l'effet que cette chanson faisait sur mon frère, mais elle m'entraînait chaque fois dans une rêverie profonde. Elle me disait tout à la fois que j'aurais pu être hongrois, être juif et ne pas être, puisqu'Ishvan était mort en déportation avant ma naissance. La Hongrie devint pour moi une sorte de secrète seconde patrie, et la langue hongroise, de toutes les langues étrangères, celle qui me touchait immédiatement et profondément comme une langue maternelle incompréhensible. Ma mère ne savait de hongrois que les chiffres, cette chanson d'Ishvan et le Notre Père. Les paroles de la chanson devenaient de moins en moins sûres. Elle continuait cependant à nous la chanter avec une grande confiance, mais dans une sorte de hongrois à la dérive, presque une langue en perdition. L'émotion rejoignait les dernières strophes des chansons de Botrel qui venaient souvent s'achever par un naufrage violent et doux. Peut-être même ma langue véritable, celle que j'aurais parlé si j'avais été le fils d'Ishvan, le fiancé fantôme. Une rêverie négative s'est secrètement développée à partir de là. Le hongrois incompréhensible de ma mère était ma langue manquante. L'ombre de la langue que j'aurais pu parler si je n'avais pas existé. Je connaissais les noms de Bartok Bela, Cluj Napoca, de Bangban. Tout ce qui venait de Hongrie me touchait au plus intime. Regardant longuement le Léman, je le trouvais beau, mais toujours plus petit que le lac Balaton. Plus tard, je me vois écoutant chaque soir après l'école 6, 10, 12 fois de suite, en ramenant chaque fois au même sillon d'un disque 78 tours le bras de l'électrophone, un passage de 5 secondes de la seconde rhapsodie hongroise dans sa version pour orchestre, où tintait le triangle. Je capturais cet instant à perpétuité. Je dois à Liszt mon premier ravissement musical. En 1956, sans que personne me l'ait suggéré sinon l'appel de la voix maternelle intérieure, je me mis à confectionner de petits rectangles de papier coloriés vert-blanc-rouge avec sur la bande blanche médiane inscrite en majuscule Liberté pour la Hongrie. Je collais dès le matin ces petits drapeaux dans les couloirs, les salles de classe et le préau du collège de Tonon. Je les épinglais sur les marronniers de presque toute la cour. Je rentrais en quatrième. Ce devait être début octobre. Je me souviens de la phrase lancée par notre nouveau professeur de français, M. Escalon. Que celui qui a affiché ses drapeaux un peu partout se présente immédiatement au tableau. Je retourne maintenant auprès du piano. Une île du langage, une langue orpheline et une langue amniotique, la langue qui ne résonne nulle part, un corps devant soi, une onde, une langue dispensée du fardeau de la communication et qui nous rappelle à chaque instant, nous fait concrètement toucher tout au fond du langage, au fond du son de chaque syllabe mordue, entendue, mâchée et bue, notre premier étonnement de parler. À partir de là que je commençais à échafauder une sorte de théorie originelle enfantine liant les forces du langage à celles de la géologie et faisant une bonne fois pour toutes de la linguistique une branche de la physique des fluides. Est-ce de là que je tiens la certitude que les langues n'obéissent à aucune loi que les humains puissent formuler, mais qu'elles sont pour toujours des bêtes respiratoires à jamais imprévisibles, des animaux surprenants qui ne peuvent finalement être vus pour de bon, saisis sur le vif, que dans la cage de la Seine. D'oreilles, je finis par apprivoiser peu à peu la singularité absolue de ce apax linguistique en Europe et perçu dans la langue hongroise une sorte de sororité mystérieuse avec le français. Je repérais des sons semblables. Le règne du E ouvert, partout présent dans le hongrois, où il est comme une basse continue, un bourdon toujours présent, et sa présence harmonique enfouie tout au fond du français. Je découvrais dans l'une et l'autre langue la surprenante richesse de l'éventail sonore, la même ouverture toute grande de la planète des phonèmes, de la palette des phonèmes. Mais j'étais surtout frappé dans l'une et l'autre langue, mais surtout dans le hongrois, par la platitude, le calme puissant des phrases, la portée du souffle, l'étendue des sons, le lac des voyelles, la longueur de la phrase se prolongeant jusqu'à une sorte de point d'orgue de la pensée. Hongrois et français s'étendent, s'épandent, se déversent. Deux langues faites pour aller loin, faites pour aller profond, non par les soubresauts de l'accent tonique et l'agitation continue, mais par l'amplitude rythmique et l'embrassement respiratoire. étrangeté radicale, leurs origines aux antipodes, il y avait entre elles un accord profond, un cours parallèle et un mouvement en miroir. J'entendais Hongrois et Français s'étendre toujours, agir d'un long phrasé coulé de même, deux langues embrassant large, prenant l'espace ample, non agité de vagues rythmiques, puissantes et fortes, non troublées de mouvements de surface, non agitées par ces petites vagues que ne cesse de faire l'italien, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, etc. Je comparais la Loire au Danube. Je trouvais aux Français aussi un magistral rythme danubien. Cette intime étrangeté, comme une écoute tactile, comme un toucher sonore de la langue magyare, m'ouvrit adolescent l'intuition que l'Europe centrale commençait à Genève et que sur les rives du Léman, à Morges, à Meyry, à Amphion, à Lausanne, nous étions au bord occidental de cet immense ensemble, l'Europe centrale, que je faisais dans mon ignorance aller au moins jusqu'à Moscou. J'y incorporais même un peu la Grèce, les Balkans, la Yougoslavie et l'Italie, une presqu'île composite, l'Italie, elle aussi balkanique en esprit. Je me composais peu à peu de l'Europe une mosaïque fantaisie. Je déployais des géographies imaginaires. J'entendais par esprit balkanique une souplesse d'esprit et le sens de la réversibilité du réel, le goût de la complexité des choses de la vie, l'esprit biface, l'art du retournement, la délivrance par le pluriel. Cela, je le retrouvais dans les vallées des Alpes, dans toute l'Italie montueuse, multiple, plurielle, séparés en vallées, morcelés en duchés, principautés et jusqu'à la plaine de Russie, où je ressentais ce goût du retournement, non dans la géographie, mais dans la religion. Le vallonnement, le rebondissement tellurique était non dans les structures de la terre, mais dans les textes et la pensée des pères grecs et des saints orientaux. Le christianisme orthodoxe me semblait plus que le romain réversible, sujet à des hauts et des bas, et le cœur, la source de cette cyclotimie géographique et mentale, je le plaçais dans les psaumes, tout au fond des psaumes, dans l'intériorité accidentée du roi David, tout au fond de notre corps, dans le mystère respiratoire, il y avait un retournement. Et comme une marque pascale mise en nous, un sceau. Ma mère est morte le 16 décembre 2003, veille de ce que j'appelle la Saint-Roumi. Le 17 décembre est le jour où à Konya, Iconium, en Anatolie, les derviches se rassemblent pour danser et tourner à l'envers. Ma mère guérissait les brûlures, coupait le feu, comme on dit en Savoie. Et elle avait trois fois dans sa vie vu des événements très lointains qu'elle ignorait, dont une noce aux Indes qui un jour lui avait été annoncée alors qu'elle l'avait décrite la veille avec grande précision. Ancêtres, en ligne directe, accusés de sorcellerie, avaient été brûlés vives à Neuchâtel au XVIIIe siècle. L'une s'appelait Péronne Clotu. Après l'ombre du Hongrois, je vis sur le français s'étendre d'autres ombres sœurs, lointaines et proches, ombres sur et dedans notre langue. L'ombre du latin, l'ombre du patois savoyard, l'ombre de l'italien. Le hongrois a été la toute première de mes quatre langues étrangères maternelles. 1. Le hongrois originel. 2. Le latin difficile, où j'ai été cancre 11 ans durant, mais sans lequel jamais je ne pourrais retrouver ni le sens ni le fil du français et où il va comme un menuisier qui travaillerait toujours de travers s'il ne savait tactilement ou par toucher mental le sens du bois. 3. L'italien, ailleurs et en face. Une langue de l'autre côté de la nôtre, nous répondant par reflets irréguliers, et qui fait la nôtre miroiter. Français et italien, deux langues qui résonnent, se mirent l'une dans l'autre, s'éclairent de lumière double, en dialogue et en controverse, et se donnent l'une à l'autre un relief singulier. Enfin, quatrième langue nourricière, le patois savoyard, le franco-provençal, qui n'est pas du tout du français estropié, mais une autre façon de descendre du latin, le très beau, très profond patois chablaisien, franco-provençal, dans sa variété lacustre. Langue humiliée et victorieuse. Langue qui se venge, qui invente et qui rit. Langue idiote et idiome de la vengeance poétique qui renverse, qui se sort par la vie de toute situation. Langue non pas des manuels, mais des mains, de ceux qui ont des mains et des outils dont ils changent selon la saison. Langue des marcheurs et arpenteurs. Langue qui sait chaque point du sol, et connaît le paysage par cœur, le pourquoi de chaque nom. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Niflon? Pourquoi il y a de la boue au Wafieux? Un être tordu au feu courbe? Pourquoi Piogre et Genève? Et en là par de l'élé, le bout du monde? Pourquoi on nomme ce village Vacheresse, Samoin? Cet autre, Mésinge, Champange, Haïse, Darbon, Ireuse, Trélachaud, Aberpoche, Haute-Cisère, Jambe de ça, Jambe de là, Séchemouille, Outre-Brevon, Vauverdane, Ouatapan. Tout doit être nommé. Tout doit être nommé jusqu'au moindre arpent qui doit porter un nom parce qu'il peut être le théâtre d'un travail. Enrouler le foin, rateler les andins, passer le labour au cassieux, sortir la peuf du grenier, trier les signons, élaguer les cobagnes. Le patois est une langue qui saisit tout en mouvement. Le verbe prédomine plus que le substantif, l'adjectif, l'adverbe. Il dispose d'une foule de verbes. une foule de verbes qu'il aime à conjuguer à tous les temps et à toutes les personnes. Snuller, fatiguer les oreilles à force de répéter sans cesse la même chose comme une manivelle qui snulle. Ouinoualer, se désarticuler. Écatifler, faire éclater en écrasant. Greuler, palpiter, trembler. S'encoubler, trébucher, ébouler, éparpiller. QPC, basculer. Locater, avoir du jeu. Se méconnaître, être dépaysé. Embunier, avoir un accident de voiture qui déforme la carrosserie. S'appondre, se joindre, se souder. S'encmanler, se désencmanler. S'unir fermement ou se désunir d'un lien qui semblait définitif. S'émourjater, s'effrayer, s'épouvanter. Enfâter, empocher. Polater, faire le joli cœur, le coq. Pacoter, marcher dans le paco, sorte de boue. Patioquer, marcher dans la patio, autre sorte de boue un peu plus gluante. Le paco et la patioque sont à distinguer du diop, boue argileuse, de la waf, boue de neige fondue, et de la diour, boue fortement mêlée de purin. 5 mots au moins pour désigner la boue, 6 pour la neige, et un grand choix pour désigner le simple d'esprit. Un bobet, un yolu, un dadou, un baban, un bétian, un toyer, un tagnet, un gnagnou, une borgnote, un taborgno, un badian. Chacun ici dans la montagne apporte le plus grand soin à son expression, à son vêtement de langue, à sa silhouette verbale, tant en français qu'en patois. Chacun a son parlement, sa façon à soi de parler, ses mots favoris, son phrasé personnel, avec des tournures du hameau, mais aussi des accentuations ou un verbe rare venant de l'arrière-grand-père. Chacun a son rapport charnel et joueur et vengeur à la langue. Chacun explore l'insondable profondeur de la langue en parlant. Chacun se souvient, sans le savoir, de l'infinie philologie enfouie tout au fond de chacun d'entre nous. Chacun sait que le langage se souvient, et chacun est un styliste. J'appelle la langue à un, une langue propre à chacun, un vocabulaire à soi et une liberté syntaxique, une manière singulière de respirer, d'articuler, de rythmer la phrase, une dépense charnelle, une joie dans la parole, un lien mystérieux ressenti entre le renouvellement des plis du paysage et celui des mots, un sentiment du paysage parlé. D'un coin de la vallée à l'autre, la langue n'est pas la même. Elle change à chaque hameau, presque à chaque maison. C'est peu à peu que l'on quitte le patois d'Aberpoche pour celui de Lulin, puis pour celui de Bellevaux. Et il faut d'abord passer par celui de l'Épuyer d'en haut, des Charges d'en bas, de Pertuis, de jambes de ça, de jambes de là, de terre à monde. La langue s'infléchit, se modifie légèrement par une intonation, un accent. Elle semble suivre les inflexions, les variations du paysage, le déploiement de la nature, le passage d'un col, l'ouverture d'un horizon à l'envers, un miroitement dans la prononciation et l'évolution des mots accompagne la marche. Le patois d'ici est une langue vive, très inventive et très émouvante parce qu'elle disparaît sous nos yeux. C'est comme cela que je me représente le voyage que fit mon arrière-grand-père, Paolo Novarina, lorsqu'il quitta la Valsesia à pied, avec dans son sac une truelle et un fil à plomb. Il n'est pas passé brutalement, comme on le fait aujourd'hui, de l'italien au français, mais il a connu différents patois, chaque jour, selon sa marche, tandis que la montagne se modifiait imperceptiblement, la langue s'altérait, variait, devenait autre peu à peu. Il est ainsi passé du Valsésien au Valdotin, au Valaisan, au Savoyard. Je l'imagine avançant dans sa pérégrination philologique, pratiquant une découverte simultanée de la parole et des paysages, une expérience musculaire de la pluralité des langues. Un drame de parole se déroulait en lui au rythme de son pas. Aujourd'hui, alors qu'a commencé autour de nous la grande désincarnation, l'algébrosement, l'épidémie numérique, la mise aux normes de tout, les langues vives qui se débattent vigoureusement contre la langue unique totalitaire, contre la plate langue horizontale, équivalente, sans paysage et sans histoire. Nos langues vives, très vivantes et très charnelles et très impures, sont encore le théâtre d'un corps à corps, d'une dépense soufflée, d'une descente dans un puits ouvert où chaque parlant tombe pour se souvenir de tout. Thank you. est à vif. Le langage se souvient. Dans le souvenir et le secret de la rédemption, disait le Baal Shem Tov. Communicant, ne croyez pas que le langage communique, il danse. C'est dans la langue à un que le langage se souvient de tout, dans son idiotie et par mystérieuse équation. Nous avons tous urgemment besoin de pratiquer à nouveau, par l'ouverture et la variation et le jeu et le changement de registre. Urgemment besoin de pratiquer à nouveau par l'ouverture et la variation et le jeu et le changement de registre, l'offrande du langage, le don de la pensée, la prière de la respiration.